בעזרת השם, זה מרקיד לנו פרשת לך לך. הוא אומר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. דוק לתורה אל נודי, הקדוש ברוך הוא ילה פרלה אברהם אבינו, כספל אברהם על אפוק, כספל פה אנקור אברהם, אל נודי, לך לך, ותן, ופורטוע. Où il est Abraham Avinu à ce moment-là?
Canaan.
Non. Où il est? Haran. Haran. Donc il lui dit, va pour toi, quitte ta terre, l'endroit dans lequel tu es né, la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. La Gemara, la Torah continue, elle nous dit Ve'asecha leroi gadol va'avarechecha va'agadela shemecha wehye beracha. Et je vais te faire un peuple nombreux, je vais faire de toi un peuple nombreux, et je vais te bénir, je vais te grandir, et ton nom, je grandirai ton nom, et ton nom sera une bracha, ton nom sera une bénédiction. Et ça continue. Et celui qui te bénira sera béni, je le bénirai. Et celui qui te maudit, je le maudirai. Comme ça dit Akadosh Baruch Hu Avraham Avinu. Et toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Grâce à toi, elles seront bénies. Et Avraham, il est parti, sans discuter, vers la terre que Akadosh Baruch Hu lui dit. Alors, Rabotai, il y a une question ici qui se pose. Nos sages nous disent ici, ils posent une question. Varé, Avraham Avinu, quel âge il a à ce moment-là? 75 ans.
Chez papa?
Non, il vit à côté de chez papa. Il n'est pas chez vous.
D'accord?
75 ans. Maintenant, Avraham Avinu, nos sages nous disent, du fait qu'il est écrit ici, du fait qu'il est écrit Lech Lecha, où est-ce qu'il y a un autre endroit où c'est marqué Lech Lecha? Dans l'Akedat Yitzhak. Dans l'Akedat Yitzhak, c'est marqué Lech Lecha. D'accord? Nos sages apprennent de là que l'épreuve de Lech Lecha ici, de quitter sa terre pour Avraham Avinu, était aussi dur que l'épreuve de sacrifier son fils. Son épreuve, elle était aussi dure que de sacrifier son fils. C'est impressionnant quand même. Quitter ta terre, c'est aussi dur que de tuer ton fils. Elle est où la comparaison? Il n'y a aucune comparaison possible. Et on ne parle pas de tuer son fils en appuyant sur un bouton ou en appuyant sur une gâchette. On parle que tu vas passer un couteau sur sa gorge. Et que le sang, il va te gicler dessus, etc., etc. C'est pas... C'est hardcore. Ouais. On parle pas de... Donc, et on nous dit quoi? L'épreuve, elle était aussi dure de Lech Lecha que de sacrifier son fils. Déjà, ça, c'est une question. En quoi ça peut être aussi dur? La deuxième question, elle est... En quoi c'est dur, Bichlal? Est-ce que vous avez vu, c'est quoi la bracha que Kadosh Baruch Hu réserve à Avraham Avinu?
Les quatre brachas.
Hein?
Dans
les quatre. Ouais. Maintenant, c'est quoi cette bracha? C'est quoi ces brachot qui lui promet? Avraham Avinu, il a 75 ans ici, il a toujours pas d'enfant, Rabotai. 75 ans, pas d'enfant. Que lui dit Hachem? Il lui dit, si tu t'en vas, et que tu vas sur la terre que je te montrerai, alors quoi hein? Je vais te bénir, je vais faire de toi un peuple nombreux. Donc tu auras une grande descendance. Et je bénirai, je te bénirai, et ton nom sera une bénédiction pour le monde entier, et tous ceux qui te béniront seront bénis, et ceux qui te maudiront seront maudits, et tout le monde courra derrière toi. En quoi hein? C'est une épreuve. tu es un homme, tu as 75 ans, tu n'as pas d'enfant. Hachem, il te dit, si tu me suis, tu vas devenir un peuple nombreux. Il y a quelqu'un qui se pose une question aujourd'hui s'il s'en va ?
Ouais, c'est dur.
Hein ?
Pas mal dur à partir.
C'est dur ?
Ouais.
Ouais.
C'est dur.
Attends.
Tu sais que Dieu il va te faire le vrai truc. Abraham,
il s'est. Non, il a rigolé, il était ironique.
Et la Hadasha,
Il était ironique. En quoi c'est dur ? Attends, dis-moi, tu n'as pas d'enfant. Zéro, FS. Tu sais que le but de l'humanité, c'est de procréer. Tu es collé à Hachem. Tu as découvert Hachem quand toi, tu avais 4 ans. D'accord ? Tu es aujourd'hui le plus grand rabbin du monde et tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de succession à ton message. Et Hachem, il te dit, tu sais quoi ? Va à 2000 km. Et là-bas où tu t'installes, là-bas, je te fais un peuple nombreux. De tes yeux, tu vas avoir une descendance. Et tu as 75 ans. Tu n'as aucun espoir d'avoir des enfants à 75 ans. Hein ?
Tu vas voir.
À 75 ans ?
Ouais.
Avec ta femme, elle est aussi vieille que toi.
Oui, si elle est jeune, elle a 30 ans.
Ok, avec d'autres femmes.
Non, mais c'est la tienne de trouver une femme qui a 30 ans.
Hein ?
Tu peux trouver une femme qui a 30 ans.
D'accord, donc il va prendre une autre femme.
Bah non, pour une autre femme.
Il est marié avec Sarah.
Et
oui, c'est ça le malheur. Qu'il n'a pas d'enfant alors qu'il est marié avec Sarah.
Ah, ouais.
D'accord. Il est marié depuis des années avec Sarah. Il n'a toujours pas d'enfant. Il est marié avec Sarah, 75 ans. Et on lui dit, tu sais quoi, si tu t'en vas de ton pays, tu vas en Israël. Là-bas, tu deviens un peuple nombreux. Elle est où l'épreuve ? N'importe quel homme, il s'en va, il court. Et en plus, c'est pas n'importe qui te l'a dit. C'est Hachem. Que Hachem.
Ouais, mais quand tu es début comme ça, t'es pas sûr qu'Hachem va l'exaucer vraiment les trucs, les choses.
T'es pas sûr ? Abraham Avinu, ouais, il est pas sûr qu'Hachem il va l'exaucer ?
C'est tout neuf.
Abraham Avinu, c'est tout neuf. 75 ans, il vit avec Hachem. C'est pas tout neuf. Il parle avec Hachem tous les jours, hein. Je te rassure. C'est pas tout neuf. Hachem, il a sorti de la fournaise. D'accord ? Il a sauvé de tous les gens qui ont voulu le tuer. Il a sauvé de son père. Il a. On parle pas d'un petit gosse de 15 ans maintenant qui sort de.
Il a déjà eu des miracles. Abraham, il a déjà eu.
Pas que un.
Ouais, donc ça
dire
que.
Alors, Moussa, j'y pose la question. En quoi c'est dur ? En quoi c'est une épreuve ? Et en plus de ça, tu me dis, c'est aussi dur que l'Akedat Yitzhak. Que de sacrifier son fils. C'est difficilement compréhensible, Nahon. Alors, si on ne comprend pas Avraham Avinu, alors on n'a pas le droit de se comprendre soi-même. Hein, Isaac ? Pourquoi ? Parce que c'est marqué dans la Torah, si vous appliquez mes commandements, alors vous serez riche, en bonne santé, je vous donnerai la sécurité dans votre pays. Et qu'est-ce qu'on fait, nous ? On ne fait pas ce qu'Hachem nous demande. Si Avraham Avinu, c'est pas compréhensible, son Yetzarara qu'il allait pas écouter à Kadosh Baruch Hu, alors le nôtre il est pas compréhensible non plus. Parce qu'Avraham Avinu il a reçu 4 bénédictions ici, 3, 4, ce que vous voulez, 2 versets. Nous, dans la Torah, si on applique la Torah, on a des pages entières de bénédictions. Maintenant on voit quoi ? On voit quoi ici ? Donc l'épreuve elle est difficilement compréhensible. Rabotai. L'épreuve est difficilement compréhensible.
Non, justement, non.
Quoi non ?
C'est pas une épreuve.
Ah, maintenant que je t'ai dit ça.
Non, ça, c'est un cadeau.
De quoi c'est un cadeau ?
Et qu'ils me disent de partir et de.
Ah, donc c'est ce que je te dis. C'est pas compréhensible.
Voilà.
Que ce soit une épreuve.
Voilà, oui, voilà.
D'accord, exactement, c'est ce que je dis. Ok ? Donc. Avraham Avinu, il a 75 ans, peut-être. Il a pas 75 ans comme nous, on a 30 ans. Ou 18, ou 17, ou 15. Il a 75 ans de vie de Torah, jour et nuit. C'est le Gdol Hador. Il n'y a pas un homme plus grand que lui au monde. Il a construit un empire de Torah. D'accord ? Il a fait des centaines de conversions. Il a attiré des milliers de personnes vers lui. Il est maintenant un homme très respecté dans le pays dans lequel il vit. D'accord ? Très très respecté, 75 ans en général, tu as la barbe blanche déjà. Les gens ils te regardent déjà pas de la même manière qu'un petit rabbin beau gosse. 75 ans, c'est machin. N'importe qui vient te poser une question, tu parles à HM, tu réponds. Tu es un homme puissant. Il est très riche. D'accord ? Il est très riche. Il a un empire de Torah à lui. Un empire de Torah.
Il n'y a pas des yeshivot.
Si, il y avait des yeshivot, moi. Et il a fait quoi ? Quoi, qu'est-ce qu'ils étudiaient ? Qu'est-ce qu'ils étudiaient, Adam Arishon et Noir ?
Rien.
Rien ? D'accord. Ils étudiaient la Torah.
Il n'y avait pas de Torah.
Il n'y avait pas de Torah écrite. Mais ils avaient la Torah par névoie, par prophétie.
Ouais. Ah, voilà,
bien sûr. Bah, la Torah, elle a été créée avant le monde. Donc elle était là. À quoi elle sert la création de l'homme si on lui a pas donné la Torah ?
Oui, mais pourquoi tu t'as dit ? Après, je te pose la question.
Ils connaissent la Torah parce qu'ils parlent des voix, mais ils ne font pas parler de
ça. Bien sûr, il leur enseigne la Torah.
Par les voix.
Lui, il la connaît par les voix, maintenant il enseigne aux autres. Maintenant, il enseigne aux autres. D'accord. Donc, ils enseignaient la Torah. Ils répandaient la Torah. La yeshiva de Shem et Ever, c'est avant Avraham Avinu. C'est avant Avraham Avinu, la yeshiva de Shem et Ever. Ils avaient une yeshiva de quoi ?
Avant Avraham Avinu ?
Oui, avant Avraham Avinu. Shem, c'est l'arrière-arrière-grand-père de Avraham. Tu as 75 ans, tu as un empire de Torah. Pastam. Tu as toute une nation, toute. Des centaines d'élèves qui ne vivent que par toi. Qui ne vivent que par toi. Tu as prouvé au monde entier qu'Akadosh Baruch Hu, il existe. Tu as réussi à prouver aux endroits où il y a le plus d'idolâtrie, dans le monde entier, vous vous trompez. Tu as fait la guerre, une guerre spirituelle contre tout le monde. Tu as marché en contre-courant toute ta vie. Maintenant, tout le monde t'admire pour ça. Et Hachem, il te dit... Dégage.
Non, c'est pas.
Ouais, HM, il te dit.
Dégage.
Oui, c'est pour le préserver.
HM, il te dit. Qui est pour le préserver ? Il lui dit de partir, point. Il lui dit, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Et il lui dit, va-t'en, tu auras un enfant. Tu seras un peuple nombreux. C'est d'air. Je serai un peuple nombreux. Mais maintenant, j'ai des milliers d'élèves. Là, d'un coup, on comprend que l'épreuve, elle commence à devenir difficile. D'accord ? Tout le monde sait, tous les Français qui viennent vivre en Israël, ils savent que c'est pas facile. Ouais. On part de France, on a notre petite situation. Les Canadiens, j'en sais rien, mais les Français, en tout cas, ils ont leur petite situation tranquille. Ah, c'est tranquille. Tout le monde sait très bien. Tu arrives en Israël, tu commences les galères. Le proverbe, il est connu. Comment on est millionnaire en Israël ? On vient milliardaire. Quand tu fais ta alia milliardaire, tu es millionnaire une fois que tu vis ici. D'accord ? Pourquoi ? Les problèmes, ils commencent. Tu arrives ici, les problèmes, ils commencent. Et tu arrives dans un pays où il n'y a que des juifs. Et avec ça, c'est très dur. Et au moins, 1/5, on va dire, au bout d'un certain nombre d'années, il fait le chemin inverse. Parce qu'il craque.
C'est quoi ? Ah, il retourne en France.
Il retourne en France. Il en peut plus. Il craque. Et tu viens vivre dans un pays où il n'y a que des juifs. Un pays où Hachem il t'a dit c'est ta terre. Un pays où tu as tout pour être un bon juif. Et combien il y en a qui s'effondrent ici ? Parce que l'intégration dans un autre pays, elle est difficile, même si c'est avec tes frères. Mais si tu t'appelles Avraham Avinu, tu pars de ta terre, de là où tu es né, de la maison de ton père, et tu arrives dans un pays où il y a des Kenaanim. Des Kénaanéens. D'accord ? C'est pas les Goïm d'aujourd'hui qui ont été influencés par le judaïsme, ils ont fait la civilisation judéo-chrétienne. On parle de barbares, de sauvages, qui ont peur de rien, qui peuvent tuer des hommes sans aucun problème, aucune civilisation. On parle de gens qui se prosternent devant toutes les statues qu'ils ont créées. Et on te dit, tu vas aller dans cette terre là-bas, tu t'installes là-bas toi tout seul, le seul juif au monde. Et là-bas, c'est bien pour toi. Ah, merci beaucoup. maintenant que j'ai construit ici, tu me dis, va là-bas où il n'y a rien à part des gens qui veulent ma peau. Mais en plus, c'est légal. En plus, c'est ça la morale. Il arrive ici, il y a quoi ici? Il y a Sodome et Amora. D'accord? Sodome et Gomorre. C'est quoi les lois du pays là-bas? C'est quoi les lois du pays? Si je frappe quelqu'un, c'est celui qui est blessé qui me doit de l'argent. Ça, c'est les lois du pays. De Sodome et Gomorre. Pour ça, Hachem, il les a détruits. Parce qu'ils font tout l'inverse de la justice sur terre. Parce que le but, c'est qu'il n'y ait pas de justice. Le but, c'est la perversion totale. Quand les anges sont venus voir Lot dans la suite de la paracha, les anges sont venus voir Lot. Lot, il les accueille dans sa maison. Lot, c'était un juge. C'est le neveu d'Avraham Avinu. Il est devenu juge à Sodome. Les anges, ils viennent le voir pour lui sauver la vie parce qu'ils vont détruire Sodome. Ils viennent le voir. Maintenant, ils sont déguisés en... ils ont pris l'apparence humaine comme des gens qui débarquent dans une ville. Des gens perdus, des passants qui débarquent dans une ville. C'est la nuit. Lot, quand même, c'est le neveu d'Avraham Avinu. Il a appris de son oncle le chesed. L'amidat chesed, la bonté. Qu'est-ce qu'il dit? Il les voit dans la rue, il leur dit, venez manger à la maison, venez dormir à la maison. Eux, ils veulent pas au début, machin et tout. Finalement, ils viennent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelques minutes après, ils sont en train de manger. Vient toute la ville de Sodome. Ils tapent comme des fous à la porte. Qui c'est ces gens que tu as osé inviter chez toi? C'est contraire aux lois du pays qu'on invite des gens qui dorment dans la rue. Les gens qui dorment dans la rue, ils restent dans la rue. Qu'est-ce qu'il lui demande? Fais-les sortir qu'on les connaisse. Et nos sages nous disent, dans la Torah, à chaque fois qu'il y a écrit le mot connaître, ça signifie avoir un rapport avec eux. Avoir une relation sexuelle. Donc maintenant, les hommes de Sodome, ils viennent chez Lot pour lui dire, fais sortir ces hommes qu'il y a chez toi pour qu'on les viole. Sinon, on te tue, toi, ta femme et tes enfants. Donc, où atterrit Avraham Avinu, Rabotai?
C'est là-bas qu'il a été.
Il atterrit en Eretz Israël. C'est en Eretz Israël, ce Sodome et Amora. C'est la mer morte. C'est pour ça que maintenant, c'est la mer morte. Parce que Hachem... Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'Hachem, il a tout détruit avec du soufre et du sel. Et du coup, toute la vallée là-bas, elle n'est plus du tout fertile, il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus rien depuis déjà l'époque d'Avraham Avinu. Et à la venue du Machiar, c'est marqué qu'il y a tout qui va refleurir, parce qu'Hachem il va faire sortir des sources qui vont rendre fertile toute la terre là-bas, et ce sera l'endroit le plus fertile au monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en tout cas? Avraham Avinu, Hachem il lui dit, pars de chez toi, du pays dans lequel tu es né, de la maison de ton père, et tu vas en Israël et je te donnerai une descendance. Maintenant, hein? De quoi?
Pas de descendance, comme si je pars pour mourir.
Exactement. C'est je pars dans une cage de fauves. Tu me dis à Kadosh Baruch Hu maintenant de partir chez les fauves. Il se passe pas que ça, Rabotai. Qu'est-ce qui se passe en plus? Avraham Avinu, il écoute Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem. Grâce à ça, on est né. On est là aujourd'hui. Il écoute Akadosh Baruch Hu. Il prend ses clics et ses claques. Il s'en va. Et il abandonne tout ce qu'il a construit là-bas. Tout l'empire qu'il a créé, l'empire du bien contre le mal, il s'en va.
Et je me dis quoi, c'est Zélanix?
Il en a pris certains, il en a refait en venant ici. On va voir. Sinon, tant pis pour eux. Ceux qui veulent suivre, ils suivent. Ceux qui veulent pas suivre, ils suivent pas. Il y en a qui ont suivi, il y en a qui n'ont pas suivi. Ils arrivent ici. Qu'est-ce qui se passe? Comme pour répondre à sa promesse, je vais te bénir, etc. À Kadosh Baruch Hu, il envoie une famine. Que ça. Comme Avraham Avinu, il arrive, il n'y a plus rien à manger en Eretz. Merci beaucoup. Tu m'as tout fait abandonner. J'arrive ici, tu m'as dit je serai béni, machin et tout. Qu'est-ce que j'ai?
Rien à manger.
Rien à manger. Donc il est parti en Égypte chercher à manger. Il part en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? L'épreuve avec sa femme. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit c'est ma sœur. Comme ça, ils ne le tuent pas. Ils ont dit ah, c'est ta sœur? Très bien, on la prend. Ils l'ont prise, on l'a menée chez Pharaon. Il dit Pharaon, Il y a une femme magnifique qui vient d'arriver dans le pays, elle est pour toi. Et là-bas, Pharaon, évidemment, il prend Sarah. Et quand il allait pour aller avec elle, alors Hachem, il a fait un miracle, qu'il y a un ange qui est venu. Et Sarah, elle disait « frappe !» Et l'ange, il mettait des coups à Pharaon. D'accord ? Et tout le peuple de Pharaon, il a été frappé par les coups de l'ange. Et ils ont eu des plaies terribles, etc. Et même sa maison, même son palais, Rachid nous dit, les murs, ils ont commencé à avoir des coups, etc. Et Pharaon, il n'a pas pu toucher Sarah. Le lendemain, il se lève, il dit, Avraham Avinu, qu'est-ce que tu m'as fait ? Va-t'en, prends ta femme. Tu ne m'as pas dit que c'était ta femme. Prends ta femme et va-t'en. Et il lui a donné plein de chameaux, plein de bœufs, plein de bétail, du blé, tout ce que tu veux, tiens, tiens, manger pour... Il lui a donné du coup, Avraham Avinu, il arrive en Israël, il revient en Israël, il a de quoi manger sans problème. Maintenant, il s'installe, il n'a toujours pas de descendance. Problème avec Lot. Il y a des problèmes avec son neveu. Lot, c'est un voleur. C'est comment ça s'appelle ? C'est berger. Ils vont paître dans les champs des habitants de la terre. Avraham Avinu, lui, c'est berger, ils ne veulent pas paître dans les champs des habitants de la terre. L'autre, il lui dit, les bergers de Lot, ils disent aux bergers d'Abraham Avinu, vous nous faites perdre de l'argent. À cause de vous, on doit marcher des kilomètres jusqu'à tomber sur des champs qui sont FKR ou des trucs comme ça. Et ils commencent à se disputer. Mais non, mais c'est du vol. Et lui dit, mais non, c'est pas du vol, etc., etc. Et Abraham Avinu, il doit se séparer de son neveu. Son neveu, il voit la plus belle partie d'Eretz Israël, Sdom et Gomorre. Il dit, moi, je prends ça. Avraham Avinu, il dit, prends. Et il lui reste le désert à lui. D'accord ? Donc Avraham Avinu, après avoir quitté sa terre très fertile avec tout ça, il atterrit en Eretz Israël dans un désert. Et il n'a toujours pas d'enfant. Il a vécu la famine. Il va revivre encore une fois la famine. Il va repartir chez Avimelech. Il va refaire le même problème, etc., etc. Il va y avoir la guerre entre lui et les gens de Avimelech. Et etc. Et il part en guerre pour sauver son neveu après. Une fois que les rois viennent attaquer Sdom et Amora, c'est lui qui part chercher son neveu. Il fait la guerre contre tout le monde. Et encore, Awad, il a des problèmes, il a des problèmes, il a des problèmes. Et il voit toujours pas de descendance. Il voit toujours pas où il est le peuple nombreux. Et Hachem, il lui répète, t'inquiète, ne crainte. Je vais faire de toi un peuple nombreux, autant qu'il y a le sable. Là, tu vois le nombre de sable qu'il y a sur la terre d'Israël ? Essaye de le compter. Celui qui pourra compter ça, il pourra compter ta descendance. Non, d'accord, mais ça racole. Je casse en temps, je vois rien. Donc en vérité, on comprend très bien maintenant c'était quoi l'épreuve d'Abraham Avinu. Il savait très bien qu'il se lançait dans une épreuve où il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Il ne sait pas, il part à l'aveuglette. D'accord, Hachem, il lui a dit. Mais il part quand même à l'aveuglette. Il ne sait pas pour combien de temps il en a de marche. Il ne sait pas. Il ne sait pas où il s'en va. Il ne sait pas qui arrivera vivant avec lui. Il ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Et quand il arrive, il voit que ça ne se passe pas très bien. Maintenant, on commence à comprendre c'est quoi l'épreuve d'Avraham Avinu. On va voir que l'épreuve, en vérité, elle est plus grande. Il y a deux épreuves, Rabotai, ici. Il y en a plein, en vérité, dans cette épreuve. Une des épreuves qui va être... C'est dans les versets, dans le premier verset, c'est marqué « Va pour toi ». Va-t'en. Mais pourquoi ? Pour toi. Pour personne d'autre. Va pour ton bien, lui dit Akadosh Baruch Hu. Pour ton bien, il faut que tu partes d'ici. Maintenant, quel est le travail qu'Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu ? C'est marqué dans le verset. Je m'attendais à ce que vous posiez la question que tout le monde pose dans ce verset quand je vous ai lu le verset. C'est marqué, quitte ta terre, le lieu de ta naissance, la maison de ton père. Normalement, ça aurait été mieux, le verset aurait été plus logique si Akadosh Baruch Hu avait dit quitte la maison de ton père, quitte le lieu de ta naissance et quitte ton pays. On part du... Ouais, on fait pas l'inverse. Alors on lui dit quitte ton pays. Mais s'il a déjà quitté son pays, pourquoi tu lui répètes quitte l'endroit où tu es né? Et même s'il a déjà quitté l'endroit où tu es né, pourquoi tu lui répètes quitte ton père? Il y a plusieurs réponses à émettre. Une des réponses que j'ai lues dans le Netivot Shalom, il nous dit comme ça. Ici, on est venu nous dire, c'est quoi la avoda qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham Avinu. Il lui a demandé une avodat amidot. On travaille sur les midot, sur tes traits de caractère. On a plusieurs choses qui influencent nos traits de caractère. Plusieurs choses dans la vie. Là où on vit. Ouais, là où on vit. L'endroit où on est né. Et nos parents. La famille dans laquelle on vit. Un Français, il n'a pas le même caractère a priori. Il n'a pas été influencé par l'ambiance française de la même manière qu'un Américain ou de la même manière qu'un Canadien. Et on le voit très bien, nous, à Yeshua Joseph. Oui, on le voit très bien. Et une yeshiva d'Américain en dessous, des fois, il y a des incompréhensions. On ne comprend pas c'est quoi le... Et eux, ils ne comprennent pas. Mais pourquoi ? Il y a le Canadien, c'est encore autre chose. Lui, c'est une tchaktchouka des deux. D'accord ? C'est encore autre chose. Et chaque pays, il a comme ça. Un Marocain, il n'a pas les mêmes traits de caractère, il n'a pas la même manière de vivre, la même influence sur sa vie qu'un Français. Ni qu'un Allemand. Et encore moins d'un Israélien. D'accord ? Ça veut dire... Donc chaque pays, il a son influence. Vous demandez à un Français, c'est quoi le caractère des Israéliens ? Insolent. Mal poli. Tu demandes à un Israélien, c'est quoi le caractère d'un Français ? Hypocrite. Fais du tménique. Là, tout le temps, il dit merci, bonjour. Eh, ça va, détends-toi. Ouais. Pourquoi ? Parce que lui, il n'a pas la même influence sur sa vie. Par rapport à l'ambiance du pays. La deuxième influence, ça va être la famille dans laquelle tu es né. La famille dans laquelle tu es né, elle va t'influencer énormément. Si tu as vu ton père, il est coléreux, il est fort possible que tu sortes coléreux. Si tu as vu des disputes à la maison, il est fort possible que tu te disputes aussi dans la tienne. L'orgueil, ça se transmet aux enfants. Mais le chesed aussi, ça se transmet aux enfants. Ce que les enfants ils voient chez les parents, ils reproduisent. C'est normal, puisqu'ils ont leurs parents en admiration depuis qu'ils sont nés. Donc forcément, ce qu'on voit chez nos parents, dans notre famille, ça va être reproduit. Ça, c'est...
Pas forcément.
A priori, oui. Un enfant, il reproduit ce que ses parents, ils font. A priori. Après, quand il grandit, il a la force de changer ça.
Ah, oui.
Mais quand il est enfant, il reproduit. S'il voit son père, il marche comme ça dans la synagogue, et bien lui aussi, il va marcher comme ça dans la synagogue. Pourquoi je vais faire différemment que mon père ? Mon père, c'est mon exemple. Pourquoi je ne vais pas faire comme lui ? S'il voit son père, il mange un jambon beurre à Kippour, ben lui aussi mangera un jambon beurre à Kippour. D'accord ? Maintenant, on voit quoi ? La dernière chose qui va influencer sur notre trait de caractère à nous, c'est la manière dont on a été conçu. Ça, ça ne concerne que nos parents, en privé, dans leur chambre. Au moment de leur relation... par laquelle on a été conçu, à ce moment-là, en fonction des intentions des deux, le bébé qui sortira de là ne sera pas le même. C'est marqué, c'est très grave, Rabotaï, c'est très grave ce qui est écrit, mais c'est marqué que si maintenant quelqu'un il a une relation avec sa femme et il pense avec la voisine, il pense à la voisine au moment où il a une relation avec sa femme, d'accord ? L'enfant qui naît, spirituellement, c'est le fils de la voisine et pas le fils de la femme. Il est mamzer spirituel. Pas dans la halakha, non. Mais sa neshama, c'est une neshama de mamzer. Donc maintenant, en fonction des intentions qu'avaient les parents au moment de la relation, ils nous transmettent des traits de caractère. Ils transmettent des traits de caractère à l'enfant. Donc c'est ça qui est écrit dans le pasouk. Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu, quitte ta terre, quitte toute l'influence ambiante du pays dans lequel tu vis. Quitte Mimolatecha, l'endroit où tu es né, c'est-à-dire ta famille, celle qui t'a fait grandir, va-t'en. Détache-toi de ces traits de caractère-là, détache-toi de ces mauvaises midotes dans lesquelles tu as grandi dans ta propre famille. Umibet Avicha et de la maison de ton père, vous savez c'est quoi qui est appelé Bait ? Dans la Torah, c'est quoi Bait ? C'est la femme. C'est quoi la maison ? C'est la femme. La maison d'un homme, c'est sa femme. C'est quoi la stabilité d'un homme ? C'est sa femme. C'est pour ça qu'un homme qui n'est pas marié, nos sages nous disent c'est comme si c'était pas un homme, parce qu'il n'a aucune stabilité. Il n'a pas de maison, il n'a pas d'endroit où être stable. Maintenant, par quoi se réalise cette stabilité au maximum? C'est au moment de la relation. À ce moment-là, ça s'appelle vraiment ta bite, ça s'appelle vraiment ta maison. C'est ta shlemout, c'est ton entité. À ce moment-là, tu es entier. D'accord? À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui dit, quitte même ça, il demande à Avraham Avinu. Même ces mauvaises midotes-là que ton père et ta mère, ils ont pu te rentrer à l'intérieur de toi au moment de ta création, tu dois les sortir de toi. Ça, c'est le travail qu'Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu Rabotai. Et à ce moment-là, quoi? Tu vas aller vers la terre dans laquelle que je vais te montrer. L'admour de Slonim, il dit, c'est quoi la terre que je vais te montrer? La terre où je me montrerai à toi. Une fois que tu auras fait tout ce travail, que tu te seras détaché des mauvaises midotes que tu as eues de ton pays, des mauvaises midotes que tu as eues de la maison dans laquelle tu es né. Tu as vu de l'orgueil, tu cours après l'argent, etc., etc. Le père de Abraham, c'était pas un saint, Rabotai. C'était le plus grand fabricant d'idoles au monde. D'accord? Donc c'était loin d'être quelqu'un de pur et de bien. Donc forcément, Avraham Avinu, il a été influencé aussi. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, enlève tout ça de toi. L'influence de ton pays, l'influence de tes parents et l'influence que tu as reçue dans ta nature. Tu es né avec ça. C'est même plus des influences extérieures. Tu es né comme ça, même ça, tu dois te séparer de ça. Et à ce moment-là, Arika, je me montrerai à toi. À ce moment-là, tu pourras voir la Shrina. Une fois que tu auras fait un travail complet sur tes midot, tu pourras avoir la Shrina. Ça, c'est une des épreuves. Et il lui précise, cette Shrina-là, tu ne pourras pas l'avoir en dehors des Eretz Israël, parce que c'est connu que la Shrina ne se dévoile qu'en Eretz Israël. Donc, tu dois quitter tout. Tu dois tout partir. Non. Et une deuxième épreuve, Rabotai, c'est sur ce qu'avait conquis Avraham Avinu. Hachem lui dit, quitte tout. Mais pourquoi faire quitte tout? Pourquoi faire quitte tout? Pour être un peuple nombreux. Et alors? Je suis déjà un peuple nombreux, j'ai déjà mes élèves. J'ai déjà des centaines d'élèves. Ils sont des gens très bien aussi. C'est des très bons convertis. Pourquoi je dois faire un peuple nombreux qui va sortir de moi? C'est quoi le truc? Montaï. Akadosh Baruch Hu, il a dit, de la même manière que moi je crée des mondes, vous devez créer des mondes. De la même manière que moi j'ai construit un monde, vous devez construire un monde. Vous devez construire un monde. C'est pour ça que la parasha, elle dit, lech lecha, avance, va pour toi. C'est quoi avance, va pour toi? Quitte tout et va construire encore. Tu dois faire un monde qui va sortir de toi, Abraham. Qui va sortir de toi. D'accord, tu as déjà construit, c'est très bien. Mais il n'y a rien qui sortit vraiment de toi. Maintenant, va construire de toi. Fais naître un peuple. Et de ce peuple-là, tu vas le construire encore plus. Et tu vas recommencer. Tu vas faire aussi des convertis. T'inquiète pas, des convertis, il y en aura des milliers dans toute l'histoire de l'humanité. Des centaines de milliers. Tu vas en faire, ne t'inquiète pas. Tu vas faire du travail. Mais avance, avance. La peur, c'est quoi? Que tu t'arrêtes sur tes lauriers, comme on dit en français. Tu vas. Tu as Haran maintenant, tu as 75 ans. On commence à vieillir à 75 ans. On n'a plus toute l'énergie qu'on a quand on a 20 ans. Aujourd'hui, à 20 ans, on a 75 ans déjà, c'est un problème. Mais à son époque, à 75 ans, on a de l'énergie. Aujourd'hui, à 20 ans, on s'endort en cours. À l'époque d'Abraham Avinu, on ne s'endormait pas en cours. Même pas en rêve. Même à 100 ans, on ne s'endormait pas en cours. Mais à 75 ans, tu commences à être fatigué. Tu as envie de ta stabilité. D'accord? Tous les vieux, on entend souvent les vieux, les anciens. Ouais, ils disent, ah non, c'est bon, je bouge plus. Ça y est, je veux ma tranquillité, je veux m'acheter ma maison à Netanya. D'accord? Que je bouge plus de là-bas, je suis bien. Mes enfants, ils sont mariés, ça y est. C'est plus moi, je les invite, c'est moi, je vais chez eux. Un Shabbat chez lui, un Shabbat chez lui, un Shabbat chez... Et moi, je suis tranquille. D'accord? J'ai donné pendant 70 ans, ça y est! J'ai fait mon boulot, je veux recevoir un petit peu. Après, je me recule, je dis non. L'air, va-t'en. Tu risques trop de recevoir, tu risques trop de te reposer. Un juif, il va de l'avant. Un juif, il avance. Il faut qu'il construise des mondes. On peut construire des mondes, on peut construire des villes, On peut construire des bâtiments, on peut construire des routes, des hôpitaux, tout ce qu'il faut pour que le monde y tourne. C'est très joli. C'est très très joli. Ça s'appelle aussi construire un monde. Ça s'appelle aussi construire un monde. Mais que dit Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu ? Il dit, va construire un autre monde, Avraham Avinu. Tu vas construire le peuple d'Israël. C'est pas des routes, c'est pas un drapeau, c'est pas un pays, c'est pas des villes, c'est pas des bâtiments. Tu vas construire le peuple d'Israël qui va recevoir la Torah et qui va construire un monde, le vrai monde. Le monde de la Torah, le monde du Emet, de la vérité, qui va construire ce monde-là, qui va chambouler tout l'univers céleste. Qui va créer des anges. Ça, c'est le peuple d'Israël. Ça, tu vas construire maintenant. Ça, je vais te demander. Ça, où tu peux le faire, que si tu vas en Israël. Que si tu quittes ta terre et que tu vas en Eretz Israël. Parce que c'est là-bas que tu pourras avoir cette proximité avec moi et transmettre cette Torah véritablement. Il faut que tu construises. Il faut que tu bâtisses. Il faut avancer. C'est pour ça que nos sages ils nous disent. Combien il y a eu de générations hein, de Adam Arishon jusqu'à Noah, du premier homme jusqu'à Noé, où Hachem il a envoyé le déluge. Combien de générations? 10 générations. D'accord? 10 générations. À l'époque, chacun vivait 1000 ans. Donc, 10 générations. Arrive Noé, il sauve le monde. Il sauve le monde. Après Noé, ses enfants, ses petits-enfants, ils recommencent à faire des bêtises. À Kadosh Baruch Hu, il y a la tour de Babel. Hachem, il les expulse dans toutes les parties du monde. Il leur change les langues, etc. Arrive Avraham Avinu, au bout de combien de générations? 10 générations, comme Noé. Hachem, il attend qu'il y ait un tzaddik qui sort pour sauver le monde. Et nos sages nous disent, le fait qu'Avraham soit né, le monde entier valait la peine d'être créé jusqu'à Avraham. Et ça valait la peine qu'Akadosh Baruch Hu ne redétruise pas le monde une deuxième fois après le Maboul pour qu'il y ait Avraham. Pourquoi? Parce qu'Avraham va construire un nouveau monde. Avraham Avinu va construire un nouveau monde. Maintenant, c'est quoi le point commun entre Noah et Avraham Avinu Rabotai?
C'est quoi?
Le point commun. Atzad Hashavé.
Et moi, ils ont préservé la...
Créer quelque chose. En quoi, Noir, il a créé quelque chose.
Ils ont préservé leur descendance et leur vie.
Regardez.
Vois ça.
Regardez. Noir, c'est marqué pourquoi il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Est-ce que vous savez pourquoi c'est Noir qui a été élu le sauveur? Tzadik de quoi? En quoi il est tzadik, Noir? En quoi il est tzadik? Pourquoi il est tzadik? Nos sages, ils ont dit. Parce que Noah, il a inventé le labour. Le labour. Labourer la terre. C'est tout. C'est tout. Macaralo.
Il crée quelque chose de nouveau.
Et à quoi alors il a créé quelque chose de nouveau? Alors il avait qu'à créer un ordinateur, c'était encore plus intelligent. Et comme ça il aurait inventé que le labour il marche tout seul. Pourquoi il n'a pas inventé le tracteur?
Ça n'existait pas.
Eh bien qu'il invente.
Il a changé de terre.
Il a changé de terre.
Et là, il a rendu fertile la...
Ah, maintenant tu dis quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y avait besoin de rendre la terre fertile?
Parce qu'il y avait des ronces.
Ah, oui, vous réfléchissez. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? À Kadosh Baruch Hu, il a maudit la terre. Quand Adam Arishon, il a fauté. À Kadosh Baruch Hu, il a dit, la terre, elle donnera plus des fruits. Elle donnera plus du blé, elle va donner des ronces. Et l'homme, il mangera son pain à la sueur de son front. Il va devoir travailler dur pour pouvoir avoir du blé. D'accord? Parce que la terre, elle va donner des ronces. Au moment de Adam Arishon, la terre, elle donne du blé en quantité astronomique, de manière naturelle. Il n'y a pas besoin de remuer la terre, il n'y a pas besoin d'arroser, rien du tout. Ça pousse tout seul du blé. Je coupe, je fais du pain. Il n'y a rien besoin, il n'y a pas besoin de paysans à l'époque. 10 générations passent, les gens ils baissent les bras. On n'arrive pas à faire sortir, on est obligé de manger des ronces. On mange des racines, on creuse pour trouver des racines et manger des racines, on n'en peut plus. Ils n'ont pas le droit de manger de viande à l'époque. Ils n'ont pas le droit de manger de viande. Ils ont le droit de manger que des herbes. Hachem, il a autorisé à Adam Arishon à manger que des herbes et pas encore la viande. La viande, ça a été autorisé qu'à Noir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent pas manger. Ils mangent, ils galèrent toute leur vie. Ils en peuvent plus. Et ils baissent les bras. Ils baissent les bras. Et quand on baisse les bras, qu'est-ce qu'on fait? Des bêtises. On s'embête toute la journée. On fait quoi? Des bêtises. Vient Noir et il dit: pourquoi vous baissez les bras? On va inventer le labour. On va remuer la terre et maintenant elle va donner du blé. On va retourner la terre. Regardez de l'avant. Arrêtez de dormir sur vos lauriers. Arrêtez d'être comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le moindre petite difficulté, les gens ils baissent les bras. Noir, il est venu, il a dit: remuez la terre elle va donner du blé. Ah, il a donné un espoir au monde. Il a voulu aller de l'avant. Il a dit: on va construire, on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter sur la malédiction d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu, il avait voulu qu'on meure, alors il aurait détruit la planète directement. S'il nous a laissé vivants avec une terre maudite, c'est la preuve qu'il y a une solution. Donc s'il y a une solution au problème, on n'a qu'à l'appliquer la solution. Et on va de l'avant. Alors du coup, Akadosh Baruch Hu, il a choisi Noir. Il a dit: toi, je peux faire descendre le peuple d'Israël de toi. Il a dit: toi, tu vas être sauvé et tous les autres, ils vont mourir. Lui, il a été sauvé. Ses descendants, ils font des bêtises aussi. Il y en a un qui sort du lot, Avraham Avinu. Et il va de l'avant. Il répand la Torah dans le monde. Il répand, il y a un Dieu unique. Vous faites tous des bêtises. Arrêtez de vivre dans votre train quotidien, de faire n'importe quoi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il faut avancer avec. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit: il va l'éprouver. On va voir. Noir, je l'ai éprouvé aussi. Toi, je vais voir. Il lui dit: va pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Avraham Avinu, 75 ans, Rabotai. Il n'a pas dit: ah, c'est fatigant. Il n'a pas dit ça. Le lendemain, il n'a pas cherché un mois, deux mois, combien je peux vendre ma maison. Wallo, la maison, elle reste ici. Moi, je m'en vais. Il n'y a aucun problème. Tout, il reste. Hachem, il t'a dit: pars. Je vais construire là-bas. Mais tu as vu où tu vas? Avec des sauvages, ils veulent violer ta femme. Dès que tu arrives, ils vont vouloir violer ta femme. Mais il faut construire. On va les changer, ces sauvages. On va les changer. On va construire un monde. Et on va construire là-bas le peuple d'Israël. Ça vaut pour tout.
Après, c'est le jeu dans le feu et... Après, c'est le jeu dans le feu et... Ouais, il y a d'être aux sortes.
Ça, c'est avant, ça.
Ah oui.
Ça, c'est avant tout ça.
Et c'est ce que je vous dis, une fois que ça s'est passé, ça.
Eh ben...
Si vous êtes dans le feu, vous voyez, vous sortez un lève.
Non, alors j'ai expliqué pourquoi c'est difficile. Parce que tu as tout un empire qui est à toi. Maintenant. Et tu as été jeté dans le feu quand tu étais tout jeune.
Vu comme ça, c'est facile. Vu comme ça, c'est d'accord. Ça se passe. Mais si on dit que Hachem il a sauvé, donc quelque chose n'est pas possible.
Mais même si Hachem me sauve, aujourd'hui Hachem t'a promis à toi que si tu fais la Torah. Aujourd'hui, Hachem t'a promis à toi que si tu fais la Torah, jamais aucune femme dans ce pays, elle fera une fausse couche. Et jamais un ennemi, il osera nous attaquer. Et jamais il y aura la famine. Et il y aura toujours l'eau au bon moment. C'est la même chose, il t'a donné au Mont Sinaï, tu étais là-bas.
D'accord, ça m'a commencé ça, 3000 ans après, dire ça. Mais quand on parle, quand c'est un directeur qui vient vous voir et il vous donne des directives, plus d'études que si il passe par la
campagne. Peut-être, il n'a rien à mettre. Mais maintenant que Avraham Avinu, il aurait pu dire: écoute, je suis fatigué, je vais me reposer.
Il aurait pu.
Maintenant, il a pas fait. Il est parti.
Je suis persuadé qu'il y a des milliers de gens qui, si Dieu il va les voir, il leur dit: fais la Torah bien comme il faut, il leur donne un signal de bien.
La preuve en est que non, c'est qu'on a fait le veau d'or au moment où on a reçu la Torah. Et ils ont reçu de leurs propres yeux. Ils ont parlé avec Hachem. Ils ont entendu Hachem leur dire: vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi sur terre. Il n'y a aucun problème. Ce veau, c'est notre Dieu, devant Hachem.
Ah. Bon, après, ça, c'est un autre problème. C'est quand tu parles à une masse, et ben, c'est...
Non, ça n'a rien à voir. Même ils ont vu Hachem dans la mer. C'est marqué que ce qu'ils ont vu dans la mer, même le prophète Yéhézkiel, qui a vu le Merkava, le char céleste, il n'a pas vu ce qu'une esclave, au moment où elle traversait la mer, elle a pu voir. Donc, on voit quoi? En vérité, que le fait qu'il y ait un miracle, ça veut absolument rien dire. Toute l'histoire du peuple d'Israël, elle prouve très bien que même si on a vécu des miracles, et pas seulement des miracles, même des grands miracles, en vérité, on a vu même des prophètes, ils ont fait des fautes très graves. Pourquoi? ou des élèves de prophètes. Pourtant, ils voyaient des miracles tous les jours. Mais parce qu'il y a un Yetzirah énorme. Leur Yetzirah, il était beaucoup plus grand que le nôtre. Aujourd'hui, je ne comprends pas ça. Mais maintenant, tu as un empire. Tu es monsieur, le dirigeant du monde. À part toi, tout le monde t'écoute à toi. Tout le monde vient te poser des questions à toi. C'est dur de détruire tout ça. Même si c'est Hachem qui te le dit. Mais Avraham Avinu, il le fait quand même. De là, on apprend Rabotai. Lech Lecha va pour toi. Jamais un juif, il s'attarde. Jamais un juif, il reste sur ses acquis. Il avance toujours. Toujours, il faut avancer. Toujours. Tu es arrivé à un niveau, c'est très bien. Il faut encore avancer, Rabotai. Avancer. Jamais un juif, il s'arrête. C'est comme ça qu'on amènera la Géoula. C'est comme ça qu'on se rapprochera d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on construira des mondes. De la même manière que Noach, il a amené la Géoula au monde. De la même manière qu'Abraham, il a amené la Géoula au monde. De la même manière que Moshe Rabbeinu, il a amené la Géoula au monde. De la même manière que tous ceux qui ont amené la Géoula, ils sont allés de l'avant. Jamais ils se sont arrêtés. Moshe Rabbeinu, avec tout le peuple d'Israël qui voulait le tuer, il n'a pas eu peur. Il est allé, il a avancé. Tout le monde avance. Tout le peuple d'Israël, il avance. Ils se sont jetés dans la mer pour pouvoir être libérés. Tout le temps, il faut avancer, Rabotai. Jamais s'endormir. Ça, c'est le Moussa. Ça, c'est la Hashkafa qu'il faut apprendre de la Torah, de cette paracha-là qui est magnifique, si vous pouvez la lire. Avec toutes les épreuves qu'il a eues, Avraham Avinu, et il en a eu dans sa vie, 10 énormes, des épreuves énormes, il n'a jamais baissé les bras et il n'a jamais remis en cause les bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu lui a promises, bien qu'il ne les a pas vues se réaliser de son vivant. Jamais. Il n'a pas vu un peuple nombreux, il a vu un fils et deux petits-enfants. Zéro. Peut-être, mais il n'a pas vu la promesse qu'Hachem lui a promise se réaliser. Il n'a pas vu que la terre, elle était à lui. Il a dû acheter la tombe de sa femme. Très cher. Et si la terre, elle est à moi, pourquoi j'achète? Ça a été donné qu'à ses enfants, et pas à ses enfants, ni Yitzhak, ni Yaakov. Ça a été donné à qui? Au peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, 400 ans plus tard. Les promesses qu'Abraham Avinu a reçues sont réalisées 400 ans après sa mort. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Il n'a jamais baissé les bras, même s'il n'a pas vu les promesses se réaliser. Jamais il a baissé les bras, tout le temps il a avancé, il a construit. Et c'est ce qu'a fait Yitzhak Avinu, et c'est ce qu'a refusé de faire Yaakov Avinu, et du coup il a mérité que son fils il parte en Égypte. Va Yeshev Yaakov. Yaakov, il a voulu, entre guillemets, s'asseoir, se reposer un peu, c'est-à-dire, moi je ne vais pas faire comme mes pères, je veux étudier la Torah, moi. Je veux être tranquille pour étudier la Torah. Pas, il voulait se reposer, Chazal Shalom. Je vais me forcer dans la Torah, que dans ma Torah à moi. Hachem, il lui a dit, ton père, il s'est battu pour diffuser la Torah. Ton grand-père aussi. Toi, tu veux te reposer? Ton fils, il part en Égypte. Tu reçois une épreuve. Un juif, il avance, Rabotai. Et Yaakov Avinu, il a compris. Et même quand lui, après, il est descendu en Égypte, il ne s'est jamais arrêté après. Jusqu'à sa mort, il a ouvert des yeshivot là-bas, en Égypte. Il a construit des yeshivot. Il a répandu la Torah. Et comme ça, le peuple d'Israël, il est né à Botaï. Chez Niske Bezrat Hashem, de jamais s'endormir et de toujours avancer et de ne pas être vieux avant l'âge à Botaï.